publié la semaine dernière, une coalition de 59 ONG appelle la Commission européenne à adopter une législation stricte relative aux ressources naturelles. L'objectif est d'empêcher les entreprises européennes d'alimenter les conflits et les violations des droits humains en achetant des ressources naturelles. Comment analyser cette proposition? C'est notre thème de ce soir. Trois invités participent à cette émission. Mabolia Yenga, coordonnateur national du programme d'appui à la bonne gouvernance du secteur minier Promine. Il est aussi président du comité de lutte contre l'exploitation illégale des ressources de la CIRGL. Monsieur Mabolia, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Héron.
Sophia Picless, chercheuse pour l'ONG International Global Witness, basée à Londres. Madame Picless, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue Marie Bakoumania, directeur de la rédaction en charge de l'économie et de l'investigation au groupe de presse Média 7. Bienvenue Marie Bakoumania, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je le disais dans le sommaire, une coalition de 59 ONG appelle la Commission européenne à adopter une législation stricte relative aux ressources naturelles. Le but est d'empêcher les entreprises européennes d'alimenter les conflits et les violations des droits humains en achetant des ressources naturelles telles que l'étain, l'or et les diamants. Ces ONG l'ont fait savoir dans un rapport publié la semaine dernière. Samuel Kachak.
Rompre le lien entre ressources naturelles et conflits, les arguments en faveur d'un règlement européen et l'intitulé de ce rapport. Il énonce les éléments clés qui doivent être inclus dans la législation communautaire afin de contraindre les entreprises européennes à exercer un devoir de diligence approfondi sur leur chaîne d'approvisionnement. Il s'agit de contrôles pour permettre aux entreprises de s'assurer qu'elles n'utilisent pas ou ne font pas le commerce des ressources naturelles qui financent la violence. Pour Sophia Picard, de Global Witness, ce document de recherche publié prouve que cette réalité reste le lot quotidien des populations de pays riches en ressources partout dans le monde, notamment en République démocratique du Congo, en Colombie, en Birmanie, au Zimbabwe et en République centrafricaine, où la violence constitue un obstacle majeur au développement. La coalition d'ONG appelle l'Union européenne à mettre à profit la dynamique générée par des initiatives telles que la disposition américaine de la loi Dodd-Frank relative au minerai des conflits. Chantal Daniès de Christian Aid souligne, je cite, « En tant que plus grand bloc commercial au monde et berceau de nombreuses firmes mondiales de premier plan se consacrant au commerce et à la transformation des ressources naturelles, l'Union européenne exerce sur les chaînes d'approvisionnement mondiales une influence extrêmement importante. » Fin de citation. La coalition recommande que le projet de législation de l'Union européenne s'applique entre autres à toutes les ressources naturelles provenant de toutes zones affectées par un conflit à haut risque.
Merci Samuel Kachak. Sophia Picless, vous êtes chercheuse pour l'ONG International Global Witness basée à Londres. Qu'est-ce qui motive cette initiative que vous avez prise parmi ces ONG? Il y a même des ONG congolaises aussi et des ONG internationales.
Oui, merci. Et merci pour l'occasion de parler ce soir. Donc, en fait, notre coalition a remarqué que dans beaucoup de pays, un lien a été établi entre le commerce en ressources naturelles et le conflit, l'instabilité et les violations des droits humains. Vous connaissez mieux que moi les situations, par exemple, à l'est du Congo. Mais il ne s'agit pas seulement du Congo. Dans le rapport que nous avons publié, comme vous venez de dire, nous avons fait le point sur plusieurs autres zones dans le monde où ce lien existe, par exemple en Colombie, en Birmanie, au Zimbabwe, etc. Donc, notre coalition veut voir que les entreprises européennes prennent beaucoup plus de responsabilités pour les ressources naturelles qu'ils utilisent dans la production et le commerce des ressources naturelles, en fait.
Alors, dans le rapport, vous faites allusion à la loi Dodd-Frank. Il y a Marcel Héritier Capitaine qui nous écrit de Kinshasa, qui dit c'est exactement l'idéal, mais ce ne sera que du papier, comme on en a vu l'expérience avec la loi Dodd-Frank des États-Unis, qui n'a pas réussi à empêcher l'émergence des minerais de sang. Une action concrète sur terrain visant à promouvoir le processus de traçabilité serait envisageable. Par rapport à la loi Dodd-Frank, c'est quelque chose qui a déjà été fait et c'est que vous souhaitez que la Commission européenne fasse. Pouvez-vous faire un petit bilan? La loi Dodd-Frank a-t-elle réussi ou pas ici en RDC par exemple?
Je pense que nous sommes juste au début de l'implication de la loi Dodd-Frank en fait. La loi Dodd-Frank, c'est une loi qui reconnaît les liens entre le commerce en minerais et le conflit au Congo et qui vise à rompre ces liens. Donc l'implémentation de cette loi a commencé au début de cette année, donc nous sommes juste au point de voir comment ça va marcher dans les pays, je dirais. Et il faut que, selon nous, selon notre coalition, il faut que les entreprises qui achètent ces minerais, les entreprises internationales, se tuent. Donc ils exigent une mesure de diligence raisonnable dans la chaîne d'approvisionnement pour vérifier qu'ils n'alimentent pas le conflit.
Alors, dans le rapport, vous dites, je cite, ce rapport énonce les éléments clés qui doivent être inclus dans la législation communautaire afin de contraindre les entreprises européennes à exercer un devoir de diligence. Pour les auditeurs qui nous suivent, en termes simples, qu'est-ce qu'on entend par un devoir de diligence?
Ça veut dire qu'il faut faire une vérification dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est une question de faire une vérification de chaque étape de votre chaîne pour voir s'il y a des risques, d'avoir alimenté un conflit ou soutenu une violence d'un droit humain dans votre chaîne. Donc, c'est une question de vraiment d'examination de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise et prendre la responsabilité pour la chaîne et pour la production des minerais.
Alors nous allons prendre pour vous, Madame Picless, cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Dodi Kasongo, depuis la ville de Lubumbashi, dans la province du Katanga. Que les ONG demandent à l'Union européenne de combattre le mal par la racine. Elle doit dissoudre les îles Vierges britanniques, chapeautées par la reine d'Angleterre, car ces îles encouragent les pratiques d'occultes minières et pétrolières en Afrique. Et les ONG ne prennent pas cette dernière comme juge, puisqu'elle cherchera à tout prix à protéger les entreprises par la vocation économique et la mission primordiale de l'Union européenne.
Réaction, Madame Picless.
Je pense que j'ai pas bien entendu la question. Si vous pouvez juste répéter un peu ce que votre.
Alors, pour l'auditeur, il pense que c'est vous, en tant que coalition des ONG, vous devriez plutôt combattre le mal à la racine, par exemple en demandant la dissolution des îles Vierges britanniques chapeautées par la reine d'Angleterre, car ces îles encouragent les pratiques occultes tant dans le domaine minier que pétrolier, par exemple.
Je dirais que je suis tout à fait d'accord et que donc notre demande auprès de la Union européenne, c'est un pas dans une direction qui va mener beaucoup plus de la transparence, je dirais, dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises qui sont dans les autres lieux dans le monde aussi. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très important et c'est quelque chose que nous, comme société civile, mais aussi les gouvernements britanniques et autres, doivent aussi mettre à la pression pour achever beaucoup plus de la transparence et partout dans le monde.
Alors, Sophia Picless, en ce qui concerne par exemple la loi Dodd-Frank ici en RDC, il y a certains analystes à un certain moment qui ont considéré que c'était plutôt les populations locales qui souffraient de l'application de cette loi que toutes ces multinationales. N'en sera-t-il pas de même de cette loi que vous proposez, vous appelez l'Union européenne, la Commission européenne à adopter?
Oui, je pense que, oui, bien sûr, je suis très conscient de cet avis. Et clairement, donc en 2010, il y avait vraiment une diminution de la commerce formelle dans l'est du pays. Mais je dirais que c'était dû à mélange des choses, y compris l'interdiction d'exploitation qui a été prononcée par le gouvernement congolais. Il y a aussi la réaction de certaines entreprises américaines qui ont réagi dans une manière un peu drastique, je peux dire, au début. Mais je dirais que aujourd'hui, nous avons vu un changement dans la culture. Et en fait, ce qui se passe dans les pays maintenant est différent de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Et je dirais que même si nous sommes tout à fait, comme j'avais dit au début, nous sommes juste donc au début du processus, je dirais qu'il y a des signes de progrès dans certains sites dans l'est du pays.
Merci Sophia Picles Mabolia Yenga, vous êtes coordonnateur national du programme d'appui à la bonne gouvernance du secteur minier Promine. Vous êtes aussi président du comité de lutte contre l'exploitation illégale des ressources de la CIRGL. Comment vous analysez cette proposition de cette coalition d'ONG?
Merci monsieur le journaliste. Notre intérêt c'est d'abord la population africaine, la population des Grands Lacs, pour qu'elles puissent jouir des ressources naturelles qui sont produites dans leur périmètre. À ce titre, nous avons tenu compte des nouvelles dispositions de la communauté internationale et au niveau donc tant local que régional, nous avons pris des mesures. Sur, par exemple, au niveau local, nous avons donc, le ministre des Mines a pris une note circulaire demandant justement à toutes les sociétés qui sortirait le minerai de se conformer aux devoirs de diligence. Sur le plan régional, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la conférence internationale pour la région des Grands Lacs et la déclaration de Lusaka issue de celle-là. Les chefs d'État avaient adopté 6 instruments plus le 7e qui est justement le guide de l'OCDE. Donc des dispositions à notre niveau ont été déjà prises pour se conformer, si vous voulez, à la nouvelle tendance internationale. Et plus récemment encore, si vous avez suivi, il y a eu le lancement du certificat régional au niveau de la RDC en juillet de cette année. Donc toutes ces mesures sont prises pour se conformer aux dispositions internationales et de la part de nous, c'est une nouvelle forme de conscientisation dans ce sens que maintenant, plus rien ne peut être produit ou commercé, si vous voulez, comme avant. Il y a maintenant une nouvelle forme de commerce qui va se faire, qui est beaucoup plus basée sur la transparence et beaucoup plus l'équité. Donc une mesure qui est prise comme celle-là ne nous dérange pas du tout, parce qu'elle fait référence à des dispositions telles que l'OCDE, qui sont déjà incluses dans notre corpus législatif. Et ce que nous aimons avec la législation proposée, c'est qu'elle élargit le champ d'action des ressources naturelles. Dans le cas de la Dodd-Frank, on parle ici de ce qu'on appelle les 3T, donc les minerais, la cassitérite, le coltan, la wolfram et plus l'or. Tandis que quand on parle d'une loi à grande compétence, c'est intéressant parce que le problème des ressources naturelles chez nous en RDC, il ne faut pas trop se focaliser sur les minerais de sang. Il y a le bois, il y a l'eau, il y a l'huile de palme, il y a beaucoup d'autres ressources qui sortent soit par le Nord ou soit par l'Ouganda ou quelque chose comme ça et qui ne sont pas comptabilisés et dont on risquerait d'oublier et qui font, disons, mal parce que ça aussi, ça alimente, si vous voulez, des groupes mafieux, la guerre et tout ça. Donc une compétence générale comme ça, c'est une bonne chose pour pouvoir lutter contre justement l'exploitation illégale.
Alors on parlait tout à l'heure de la loi Dodd-Frank. Quel bilan on peut dresser de son application à ce jour? Sophia Picles a dit que les choses semblaient déjà être différentes par rapport à ce qui se passait il y a 10 ans. Il y a de l'espoir et ça commence à marcher. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui et non. C'est-à-dire que nous sommes vraiment tombé. Hein. Quand vous regardez, par exemple, en 2011, nous avions, si nous allons en 2010, nous produisons à l'époque 23 000 tonnes. Et les 23 000 tonnes, c'était dans le circuit officiel. Et dans ces 23 000 tonnes, 210 millions étaient comptabilisés dans l'économie congolaise. En 2011, on a eu plus que 8 000 tonnes, soit 97 millions. Et en 2012, plus que 4 000 tonnes avec 29 millions. Donc vous voyez un peu la chute, l'évaporation des revenus. Et ça, c'est difficile pour l'État congolais de travailler lorsqu'il y a un revenu comme ça qui s'évapore. Et donc maintenant pour remonter
la pente. Et c'est dû à quoi en passant? C'est dû à quoi que c'est,
mais justement
c'est quand même le circuit officiel. On ne comprendrait pas que ça baisse au lieu d'augmenter.
Non, mais les entreprises justement qui devraient exporter ou ceux qui devraient acheter doivent se soumettre à toute une série de mesures qui certaines c'est difficile, d'autres c'est trop compliqué. Et pour notre part aussi, c'était aussi difficile à mettre en place pour un comptoir de se conformer à cette loi. Il fallait la comprendre, il fallait la maîtriser. Et aujourd'hui, on voit que le système d'étiquetage, de traçabilité qui est mis en place, ce sont des éléments qui coûtent énormément à nos compagnies qui veulent produire. Donc, il y a des effets, disons, pervers qu'il faut tenir compte. Parce que maintenant, pour pouvoir faire tout ce circuit de traçabilité, d'audit, de contrôle, ce n'est plus donné à tout le monde. Et ça, c'est des choses qu'il faut tenir compte. Parce que ça devient un produit qui, finalement, au moment où on sort de la RDC, coûte très cher à cause de toutes les mesures qu'il faut prendre. Et ça, ce n'est pas compétitif pour nous.
Alors, vous dites que la loi Dodd-Frank, oui et non, a porté ses fruits. Mais là, la coalition demande que le projet de cette législation, vous l'avez également souligné, que c'était un élément positif, qu'elle puisse s'appliquer à toutes les ressources naturelles. Ne va-t-on pas craindre cette fois-là encore qu'il y ait des baisses et qu'il y ait de quoi s'inquiéter?
Mais justement, partant de cela, de mon analyse ou en montrant quels chiffres, il faut, quand vous allez chez le médecin, il vous prescrit le médicament. S'il y a des effets pervers, il prévoit, il dit vous aurez mal à la tête.
Des effets secondaires.
Donc il faut quelque part prendre une loi un peu,
équilibrée
et qui tient compte aussi de ces effets pervers. Et parce qu'on veut aider au finish, quoi. On veut aider l'artisan, l'exploitant artisanal, qui puisse pouvoir vivre de son exploitation, quand bien même c'est dur, dans de bonnes conditions. Et ça, c'est grâce justement à toutes ces lois qu'on améliore les conditions. Mais d'autre part, il faut aussi qu'il puisse évoluer dans une sphère quand même saine.
Bienvenue Marie Bakoumania, vous êtes directeur de la rédaction en charge de l'économie et de l'investigation au groupe de presse Média 7. Comment vous analysez cette proposition?
Une nouvelle loi pour assurer la traçabilité des minerais et par voie de conséquence briser les cycles de commerce illicite, commerce des sangs, c'est une loi qui est toujours la bienvenue. Cette proposition est la bienvenue. Mais seulement, on s'inquiète un tout petit peu de cette inflation de propositions de loi qui, au finish, consacre une certaine hypocrisie. Dans la mesure où cette loi va agir en aval et en amont, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Mamboli a tout à l'heure soulevé la question de la certification régionale. Une certification qui est opérée par tous les États de la sous-région, ce qui est une bonne chose, mais lorsque l'on sait également que cette certification peut constituer également une sorte de blanchisserie pour certains minerais, c'est inquiétant, extrêmement inquiétant. Et lorsqu'également on le fait pour l'Union européenne, une loi Dodd-Frank pour les États-Unis, quelles sont les dispositions qui sont prises pour les autres débouchés, notamment la Chine? Est-ce que au niveau de la Chine, il y a également des dispositions pareilles qui sont prises? Mais du coup, je pourrais peut-être proposer une réponse à M. Mabolia. Certainement que cette différence va vers d'autres marchés. C'est nécessairement quelque part que cette différence est orientée. Je pense que cette hypocrisie qui dure un peu trop longtemps devrait cesser.
De la part de qui?
De la part de tout le monde. De la part des ONG, de la part des dirigeants, des gouvernements, des gouvernements des pays où on retrouve toutes ces entreprises qui importent des minerais décents, des minerais à problème, des minerais qui financent la guerre. Il y a une sorte d'hypocrisie et on doit tous agir en amont. Et agir en amont, c'est agir sur le gouvernement. Je pense que si réellement les ONG voudraient que on retrouve une certaine sérénité dans le secteur, que l'on retrouve une certaine transparence dans le secteur, il faut agir sur les gouvernements. Et les gouvernements de la sous-région, on sait comment ils se comportent, on sait comment ils favorisent le commerce illicite, on sait comment ils organisent les guerres, les différentes guerres. Et lorsque on continue à faire des propositions, c'est une bonne chose, je la condamne pas. Mais lorsqu'on a une série de propositions. Je pense que on ne trouvera pas de solution durable quant à la question. Ben, je me dis également les mêmes importateurs, souvent ils préfinancent. Ils préfinancent. Est-ce que à ce niveau-là, des dispositions, notamment sur les transferts de certains fonds, sont prises pour casser ces cycles? Tant qu'on ne serait pas, on n'aurait pas pris des dispositions pratiques pour arriver à éradiquer réellement tout ce commerce par des décisions courageuses. Moi, je salue cette décision éventuellement qui serait prise de carrément ne plus donner droit de vie aux paradis fiscaux, notamment les îles Vierges britanniques, Monaco. Tant qu'on n'aura pas pris de décisions courageuses de ce sens-là, pour moi, l'hypocrisie, elle est là. Et les morts, on va continuer à en compter et on va continuer à proposer des lois et le cycle va se répéter et ce ne serait pas productif.
Alors, votre analyse également par rapport à l'application de la loi Dodd-Frank, qu'est-ce qu'elle aurait changé?
Mais écoutez, la loi Dodd-Frank, je pense que M. Mabouli a fait une très bonne constatation que l'application de cette loi a plus frappé les petits artisanaux à l'intérieur des frontières congolaises notamment, mais on dit c'est le prix à payer, c'est le prix à payer pour avoir une transparence conséquente. Mais je me dis également si le prix à payer, c'est d'ajouter encore d'autres misères à toutes ces populations, je pense qu'il faut apporter des correctifs.
Alors, mais vous avez suivi tout à l'heure Sophia Picless et également M. Mabolia se féliciter sur le fait que cette loi, maintenant, pour cette proposition, voudrait que la loi s'applique à toutes les ressources naturelles.
Mais écoutez, moi je me félicite également. Je ne suis pas contre. J'ai dit toutes les voies qui conduisent vers l'éradication. Que ce soit un petit pas, c'est un pas nécessaire et il faut l'encourager. Mais j'ai dit qu'il y a moyen de faire mieux et il y a moyen de faire plus. Hein, et il y a moyen de faire mieux, de faire plus, de frapper au bon endroit et de frapper au cœur du système. Il y a moyen de le faire. Et les ONG internationales comme Global Witness, je suis convaincu, savent où on peut frapper et obtenir des résultats mieux qu'avec une loi qui va agir beaucoup plus en aval.
Alors, frapper mieux et au cœur du système, à quel endroit il faut frapper?
je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur le gouvernement
de la sous-région.
Il faut frapper.
Hein. Concrètement, il faut faire quoi? Parce qu'il y a des mécanismes au niveau de la sous-région qui existent. M. Mabouli en fait partie.
Oui, M. Mabouli a plutôt donné des mécanismes classiques de résolution de la question. Moi, je pense que sur le plan diplomatique, il y a moyen d'agir plus. Je pense que les ONG mettraient beaucoup plus, tout en concomitamment, simultanément, parallèlement aux besoins, tout en exerçant, en proposant des lois telles que celles-là, que je salue, j'insiste, il faut également mettre la pression sur les gouvernements pour que la diplomatie puisse travailler et ramener les différents gouvernements de la sous-région à des bonnes pratiques, à des pratiques saines, permettant à ce que les populations ne puissent plus souffrir parce que le seul péché, c'est d'être riverain des minerais et des ressources naturelles.
Sophia Picless, vous venez de suivre Mabouli Ayenga ainsi que bienvenue Marie Bakoumania. Il y a des inquiétudes par rapport à l'inflation des lois et bienvenue Marie Bakoumania particulièrement fustige une certaine hypocrisie de la part de tout le monde, des ONG, des gouvernements. Qu'est-ce que vous répondez?
Oui, en fait, il y a beaucoup de choses que tous les deux ont dit avec qui je suis d'accord. Je dirais que c'est une question d'approcher cette situation dans plusieurs façons, en fait. Et je veux vous rassurer que Global Witness travaille aussi en parallèle sur les autres façons de mettre à la pression que les gouvernements dans les régions des Grands Lacs ont dit que partout dans le monde pour porter plus de la transparence de les chaînes d'approvisionnement, mais aussi dans les autres aspects de ce qu'ils font avec les ressources naturelles. Donc je suis d'accord que ce que nous proposons aujourd'hui, c'est juste une partie de ce qu'il faut faire pour que ce qui est important, pour que les ressources congolais ou les ressources naturelles des autres pays bénéficient les populations locales. Et donc ce que nous cherchons, c'est que ce qu'on cherche vraiment, c'est des investissements responsables et pas des investissements irresponsables. Et c'est ça que nous sommes en train d'essayer de créer ou bien d'encourager avec cette loi européenne.
Alors, vous avez également suivi Mabolia Yenga qui a démontré, chiffre à l'appui, les conséquences que la loi d'Aude Franck a eues sur la production ici en RDC. Il a soutenu qu'il faudrait une loi équilibrée. La loi que vous proposez n'est-elle pas une loi rigide au point d'ajouter ou d'amplifier la misère de la population?
Oui, c'est un point très important. La première chose que je veux dire que ce que nous proposons n'est pas habitué à interdiction sur le commerce des minerais dans notre pays, pas habitué. C'est une question seulement de demander aux entreprises internationales de vérifier leur chaîne, donc de prendre la responsabilité pour ce qu'ils font dans les pays comme Congo ou ailleurs dans le monde, au Colombie ou comme on l'a dit, il y a plusieurs exemples. Donc, je dirais que donc c'est pas une question de faire souffrir beaucoup plus la population. Ce que nous sommes en train de faire, ce que nos idées sont vraiment pour aider la population pour qu'ils puissent bénéficier, parce que ce que nous avons vu surtout dans l'est du Congo pendant les dernières 20 ans même. Et que les ressources naturelles n'ont pas du tout bénéficié à la population là-bas, et ça doit changer.
Il y a Robert qui nous écrit, Robert Kabandani, qui nous écrit de Bukavu Sud Kivu, qui dit « Cet appel de ces 59 ONG contre les entreprises européennes qui alimentent les conflits et les violations des droits humains en achetant des minerais restera lettre morte parce que ces entreprises européennes s'enrichissent et voient leurs affaires aller de l'avant en se lançant dans cette besogne, comme qui dirait, le malheur des uns font le bonheur des autres. Il est pessimiste, il pense que votre démarche ne marchera pas. »
Bon, ok, mais je dirais qu'il y a certaines entreprises maintenant qui ont réagi dans une manière positive. Bien sûr, nous sommes comme j'ai déjà dit plusieurs fois pendant cette émission, nous sommes au début. Et nous allons voir, donc, nous avons déjà vu que certaines organisations, certaines entreprises internationales ont décidé qu'il y a beaucoup plus de la pression sur ces points maintenant. Beaucoup de monde comprend maintenant ce qui se passe dans les chaînes d'approvisionnement international, où les entreprises européennes sont riches, tandis que les populations dans les zones de haut risque ou de conflit souffrent. Donc, ce qu'il faut faire, ce que notre coalition veut voir, et que les organisations continuent de changer la façon dont ils s'approvisionnent pour qu'ils achètent les minerais dans une façon responsable. Et ce que nous avons vu ici en Europe, par exemple, c'est beaucoup plus de consommateurs, beaucoup plus d'investisseurs, beaucoup plus de même des gouvernements qui ont maintenant commencé de poser des questions sur ce que les entreprises font ailleurs dans le monde, donc dans les autres territoires. Ils ont commencé à dire, est-ce que vous avez utilisé les standards internationaux avant que vous achetez vos minerais dans certains pays.
Merci Sofia Picles, Mabolia Yenga. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujimayi au Kasai-Oriental.
Galvani Tiouk Ambojumaï au Kassai Oriental. La publication du présent rapport est la bienvenue, car la problématique de l'exploitation des ressources naturelles congolaises ne laisse aucune personne digne indifférente, surtout dans la zone en conflit comme la partie orientale du pays. Cependant, elle risque d'être une lettre morte parce que les entreprises multinationales constituent un grand lobby auquel la RDC ne pourra faire face, moins encore l'Union européenne, vu l'état fragile de l'une et la crise de l'autre, car ces entreprises multinationales sont pourvoyeuses de l'économie en Europe.
Action, Mabolia Yenga.
L'initiative privée en RDC est le moteur de la croissance du développement dans notre pays. Nous fondons espoir que notre développement va être induit par l'initiative privée. Nous militons et nous travaillons pour l'émergence de grandes industries au niveau de la RDC. Il y a quelques années, nous n'avions pas de compagnie produisant de l'or. Aujourd'hui, nous avons Banro qui produit à peu près plus de 200 à 300 kilos d'or maintenant par mois. Au moment où je vous parle, demain, je crois, il y aura l'inauguration de la première coulée d'or avec Kibali Gold.
Ça fait le premier lingot d'or.
Deuxième industrie qui le fait. Donc il y a une ceinture aurifère qui se développe. Ce que je veux dire ici, mon message, c'est que au-delà des problèmes que nous avons, nous devons regarder d'une manière beaucoup plus globale. Il ne faut pas qu'avec tous ces ONG, on nous bloque dans une histoire comme si c'était une fin en soi. Le développement du Congo, ce n'est pas avec tous ces petites affaires. C'est bien sûr des problèmes, mais il faut qu'on regarde, que le message soit de manière beaucoup plus globalisante et non toujours avec ces conflits comme si rien ne se faisait à l'Est. Dans ce même coin-là où on est en train de parler, qui a conflit et violence, il y a des grandes compagnies qui émergent. Et donc ça doit être aussi mis en exergue lorsque les ONG et tout ça interviennent, parce que ça donne du travail, ça peut construire 150 kilomètres de route. Et aussi, ce que je veux dire, c'est que ces mesures qui sont prises ou qui sont faites, elles peuvent être aussi accompagnées de mesures, qui permettent ou qui encouragent ceux qui viennent au Congo de le faire. Parce que quand vous avez une compagnie comme Boeing qui veut venir au Congo acheter nos minerais, mais quand elle voit toutes les mesures qu'elle doit prendre ou elle doit faire, elle se dit, bon, pourquoi ne pas aller à Kuala Lumpur ou ailleurs? Donc, il faut que ces Européens et tous ces... Quand elles prennent ces mesures, si vous le faites au Congo et que vous respectez, par exemple, toute la chaîne de valeur, nous allons vous donner en échange, par exemple, ou en échange, des allègements fiscaux. Donc, ces compagnies qui disent, parce que ça a un coût pour mettre toutes ces procédures de diligence, vont dire, bon, puisqu'il y a un allègement fiscal, donc on m'encourage à aller au Congo. Et là, on peut peut-être mieux se comprendre et dire, bon, ben finalement, on ne va pas nous enfermer dans une boîte d'allumettes.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à Bienvenue Marie Bakoumania, qui tout à l'heure parlait de l'hypocrisie, même au niveau des gouvernements?
Ça, c'est lui qui dit. Moi, je suis un technicien, et comme vous voyez, entre ma première intervention et ma deuxième, je propose déjà des pistes de solutions qu'on pourrait faire facilement, parce que nous vivons ça quotidiennement, par exemple, au Maniema. Aujourd'hui, nous mettons en place la traçabilité, et celui qui achète le minerai traçabilité l'achète beaucoup plus cher que quand il y a un autre qui vient et qui dit, par exemple, ceux venant des pays, comme on dit, des BRICS, si vous comprenez ce que je veux dire, pour les autres dont il a fait allusion, achète à moins cher. Donc vous avez déjà un problème au niveau de la mise en application de la traçabilité de notre système chez nous. Donc il y a beaucoup encore à faire, et comme vous voyez, bon, vous verrez, c'est comme il dit, quoi.
Bienvenue Marie Bakoumania, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient déjà d'où? De Bukavu au sud, qui vous voilà.
Robert Bahome de Bukavu au sud Kivu. Cesser d'alimenter les conflits et les violations des droits humains, c'est aux yeux des entreprises européennes cesser de faire des revenus. Face à cette réalité, je ne pense pas que la Commission européenne puisse épouser l'idée de ces ONG en adoptant facilement une législation stricte par rapport aux ressources naturelles. Qu'on n'oublie pas que c'est la question du capitalisme, la question d'intérêt ou la question de morale n'a pas de place.
Voilà, bienvenue Marie Bakoumania. C'est une question qui revient. On a l'impression qu'on est dans un paradoxe entre la morale, la paix, les intérêts. Quelle est votre réponse?
Écoutez, il faudrait pas non plus que nous, Africains, nous surestimions. Hein. Nous ne représentons que moins de 2% dans les échanges mondiaux. Hein. Si chez nous, on n'est pas compétitif, ben les gens vont s'adresser ailleurs. Il faut qu'on le retienne aussi. C'est pourquoi lorsque les ONG, cette coalition d'ONG formule de propositions, il faudrait pas que ça vienne nous enfoncer davantage, hein, parce que même si nous saluons toutes ces propositions, parce que ça contribue d'une manière ou d'une autre à atténuer tant soit peu les effets pervers dont a fait allusion tout à l'heure Monsieur Mabolia, il faudrait pas non plus que ces mesures viennent alourdir davantage hein, les fardeaux de ces populations qui souffrent. Ça, c'est l'élément important que je devais souligner. Les autres sont de bonne foi. Il faut aussi faire confiance à ces amis qui se soucient, hein, qui mettent en place des procédures de traçabilité, des procédures de diligence pour amener les entreprises, leurs entreprises, des entreprises européennes à respecter la vie des humains ici en République démocratique du Congo. L'autre part de responsabilité, c'est aussi nous-mêmes. Hein, c'est aussi nous-mêmes. Qu'est-ce que nous-mêmes à l'interne, qu'est-ce que nous faisons? Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État avait décidé de suspendre les exploitations au niveau de l'Est de la République. Et après, il y a eu des mesures qui ont été prises. Est-ce que ces mesures sont efficaces à ce jour? Est-ce que ces mesures ont permis à ce que les revenus des exploitants artisanaux puissent augmenter un tant soit peu? Je pense également que toutes ces responsabilités, on ne doit pas toujours regarder de l'extérieur. C'est pourquoi pour moi, je pense qu'il faut beaucoup plus agir sur les gouvernements de la sous-région, pour que les causes profondes de ces dysfonctionnements puissent disparaître. Et les causes profondes de ces dysfonctionnements, c'est par exemple l'inexistence des États. Moi, je crois qu'on progresse aussi de ce côté-là. Il faut que les États existent, il faut que les États gèrent les espaces, il faut que les États contrôlent les espaces qui sont placés sous leurs responsabilités. Ce sont aussi là des voies et moyens susceptibles d'apporter un bon en avant, beaucoup plus rapide que ce qui est proposé à travers ces mécanismes qui se mettent difficilement, péniblement en place et qui, au final, est porté, le poids est porté par la population.
Alors, vous parlez des actions qu'il faut mener en interne sur le plan local. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a comme une cassure entre les mesures sur le plan, prises sur le plan international et celles sur le plan local qui ne suivent pas?
Absolument. Absolument. La loi comme la loi Dodd-Frank, quel est son répondant ici au pays, par exemple en République démocratique du Congo? Moi, personnellement, en tant qu'observateur, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. L'Union européenne va mettre en place, peut-être qu'ils vont adopter ces propositions de cette coalition d'ONG. De notre côté, qu'est-ce qu'on fait? Je ne minimise pas le travail qui se fait déjà. Je le minimise pas, mais je me dis que on a déjà des problèmes de personnel. Les quelques rares qu'on a, comme M. Mabolia, ils sont rares, ils sont très peu. Les techniciens qui maîtrisent le secteur, qui maîtrise les techniques de lutte et autres, je pense qu'il y a des efforts plutôt à fournir à l'interne, et j'insiste qu'à l'interne, il y a beaucoup à faire.
Sophia Picless, parmi les recommandations, vous demandez par exemple que le projet de législation de l'Union européenne, je le disais tout à l'heure, s'applique à toutes les ressources naturelles provenant de toute zone affectée par un conflit ou à haut risque. Qu'est-ce qu'il faudrait faire par exemple sur ce point-là pour que cette loi puisse également bénéficier aux populations locales, comme on le dit ici?
Oui, je veux juste aussi répondre très rapidement à ce que le dernier locataire vient de dire. Je dirais que donc ce que nous proposons, c'est basé sur le travail qui a déjà été fait par l'Organisation de coopération et du développement économique qui se base à Paris, le OCDE, et sur le principe de diligence raisonnable qui ont déjà été établis. Et ce qui existe déjà au Congo aujourd'hui, c'est l'arrêté numéro, je me rappelle bien, 00705, qui a été introduit en 2012, qui exige les entreprises qui fonctionnent dans le secteur minier au Congo d'exercer aussi le devoir de diligence raisonnable. Donc je dirais qu'il y a déjà une correspondance qui lien ce que nous demandons et ce qui existe déjà au Congo. Et je dirais que cette processus de diligence raisonnable qui peut bénéficier les populations dans les autres zones de conflits et de risques dans le monde. Parce que s'il y a beaucoup plus de transparence dans les chaînes d'approvisionnement, si les compagnies et les entreprises sont vraiment forcés d'examiner les chaînes, de vérifier les chaînes d'approvisionnement et surtout de publier les étapes qu'ils ont prises pour montrer aux gens, donc pour montrer à la population locale, pour montrer aux consommateurs finaux aussi, qu'ils ont pris des étapes pour être responsables, pour acheter ou bien pour produire les minerais dans une façon responsable. Ça, c'est une étape vraiment très importante. Et c'est ça que nous voulons voir.
Alors, Mabolia Yenga, je signale qu'il nous reste au moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport au marché asiatique qui semble plus ouvert et où s'écoulent également d'autres ressources naturelles de façon pas toujours très correcte?
Le pays comme la Chine, je crois, ils font partie de l'OCDE et donc doivent se soumettre au devoir de diligence. Mais ce n'est pas souvent le cas. Et donc cela crée sur terrain des rivalités entre ceux qui achètent avec la traçabilité et ceux qui le font discrètement. Et ça crée déjà une difficulté, d'application. Ce que je veux dire, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, les ONG comme Global Witness et les autres organismes ont une grande influence. Ce qui se passe à l'Est, la façon dont on peut développer à l'Est, c'est de se focaliser sur ce qui est gagnant, ce qui est en train de marcher et d'aller de l'avant. Encore une fois, je vous ai dit qu'il y a des industries qui commencent à s'installer là. Il faut encourager, il faut que Global Witness les encourage, parce qu'ils travaillent dans des conditions assez pénibles et dans des endroits assez difficiles. Il faut que tout le monde les porte, si vous voulez, pour aller de l'avant, parce que eux ont la capacité d'investir de gros montants pour faire des grandes routes. Vous avez aujourd'hui une compagnie américaine qui veut s'installer à Bissié. Et lorsque vous voyez Bissié, qui a été vraiment le théâtre justement de tous ces problèmes de minerais, il faut circuler pendant au moins 30 kilomètres à pied. Qu'on fasse traçabilité ou pas, les gens vont toujours souffrir de pénibilité. Ce n'est pas ça qui va améliorer leur vécu quotidien. On aura beau dire que oui, on fait la traçabilité, oui, on fait tout ce contrôle, mais il ne reste qu'ils seront toujours avec des chemises à moitié déchirées, qu'ils auront toujours des petits montants. Mais si aujourd'hui, il y a une usine qui s'installe, on va devoir ouvrir les routes. Banro, à Namoya, a dû faire 160 kilomètres de route pour faire venir des gros moteurs. Il faut que la communauté internationale fasse un peu comme à l'époque d'un plan Marshall, accompagner le gouvernement congolais, accompagner les pays africains pour mettre en place une vraie stratégie de développement industriel. C'est le gage du développement et de la résorption de tout ce qui est artisanal et tout ça. Parce que les gens n'ont pas autre chose à faire, souvent, c'est un problème en termes de survie.
Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelles sont les perspectives en ce qui concerne les ressources naturelles pour la RDC?
Avec la loi Dodd-Frank, avec tout ce qui se passe, la RDC, les pays africains, nous prenons tous conscience du potentiel que nous avons et les enjeux qui se passent actuellement. Donc nous devenons beaucoup plus responsables dans la gestion. Et encore une fois, ces grands organismes comme les ONG et tout ça pourraient nous aider au moment où, par exemple, demain nous devons signer des contrats avec des grandes compagnies. Elles devraient plutôt nous aider à dire voilà ce qu'il faut faire pour ne pas à tomber dans des travers des multinationales et tout ça. Donc ça peut être un élément pour nous accompagner parce que la capacité de chez nous d'absorption de négocier avec ces grandes compagnies n'est pas toujours au rendez-vous.
Bienvenue Marie Bakoumania, il faut que les ONG donnent un coup de pouce. Visiblement là on est un peu, je pourrais exagérer, dans une forme de contre-campagne.
Non, on n'est pas dans une forme de contre-campagne du tout. Hein. Nous avons dit que ce qui se fait, c'est déjà dans la bonne direction. Et M. Mabolia a fait une excellente conclusion à mon sens et je l'épouse entièrement. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un accompagnement de ces ONG pour que nous puissions, plutôt que de nous contenter des menus fretins qui viennent régulièrement ici, que les majors s'intéressent à la République démocratique du Congo et ce travail, les ONG peuvent nous aider dans cette direction également et je suis d'avis que c'est bon de proposer des lois sur la traçabilité et sur la transparence, c'est aussi bon de mener des lobbying pour que les grands puissent venir en République démocratique. Je sais que ce n'est pas leur mission, mais c'est toujours un plus que de penser également à cette population qui souffre parfois aussi de ces lois, de cette lourdeur administrative qu'on ajoute de plus.
Très rapidement, un mot sur le marché asiatique.
Par rapport au marché asiatique, je pense que sur le plan bilatéral, il faudrait que les gouvernements puissent amener le parti, les différents BRICS à ce qu'ils puissent également se conformer à cette législation, parce que la transparence, finalement, est plutôt favorable à tout le monde, ne bénéficiera pas seulement aux occidentaux, mais également à tout le monde, particulièrement merci aux populations congolaises.
Sophia Picless, juste un mot en guise de conclusion.
Oui, je suis tout à fait d'accord, la transparence va bénéficier tout le monde et j'espère que les entreprises qui vont qui vont maintenant investir dans le Congo feront ça dans une manière très responsable qui respecte les normes internationales.
Merci madame, merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous, chers auditeurs internautes, de nous avoir suivis. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.